L'autre savoir-faire, une émission présentée par Marie-Catherine Bédouré. Auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous avions découvert ensemble lors d'une précédente émission comment était née la LPO, Association de protection de l'environnement. J'avais alors à mes côtés Madame Stéphanie Plaga-Lemanski, directrice de la délégation lotoise de la LPO Occitanie, délégation territoriale du Lot. Je vous propose aujourd'hui de faire avec elle un retour sur les actions de la LPO Occitanie. Bonjour Madame Plaga-Lemanski.
Bonjour Madame Bédouré.
Bienvenue dans le studio de Radio Présence. De nombreuses espèces d'oiseaux disparaissent chaque année en Europe. C'est énorme. Des études menées par la LPO depuis plusieurs années sur le territoire pour améliorer la connaissance des espèces, oiseaux, mammifères, amphibiens, et préserver les populations. Les suivis sur les oiseaux nous indiquent que les oiseaux des milieux agricoles en Occitanie diminuent fortement et régulièrement depuis 30 ans. Moins 43% pour les oiseaux des milieux agricoles, de même pour les oiseaux des milieux urbains.
Effectivement, la dernière publication de la LPO Occitanie, donc, qui était réalisée à partir d'un suivi particulier qui est le suivi temporel des oiseaux communs, autrement appelé le STOCK chez nous, a permis de mettre en évidence, par exemple, une diminution des populations d'hirondelles de fenêtre. Donc en 20 ans, on a constaté que dans la région Occitanie, il y avait moins 42,7% d'individus qui étaient présents. Il s'agit donc des hirondelles de fenêtre, ce sont des insectivores aériens, comme tout le monde a déjà eu l'occasion de le remarquer. Et cette espèce souffre particulièrement de la baisse de nourriture, donc une biomasse d'insectes volants, depuis plus de 30 ans. Donc cette baisse de nourriture est un des facteurs qui induit la diminution du nombre d'individus de cette population. Par ailleurs, il y a aussi la destruction des nids, n'est pas favorable pour l'espèce, bien évidemment. Alors la destruction des nids, simplement parce que les hirondelles de fenêtre construisent des nids du coup en boue qui sont juste sur les façades des maisons, en dessous des toits. Et les personnes sont souvent généralement gênées par des salissures liées aux fientes. Et donc les enlèvent pour pas s'ennuyer avec ça. Ou alors lors de travaux de ravalement de façade où on enlève tout d'un coup. Donc bien évidemment, c'est pas du tout favorable à l'espèce. Et puis le troisième point, c'est l'évolution des conditions écologiques qui ont des impacts réels sur la migration de ces oiseaux. Pour revenir au problème de la destruction des nids, on remarque qu'il y a aussi, du fait de la bétonisation et de l'urbanisation des villes, des villages, et des sécheresses qui sont de plus en plus répétitives et précoces, on les a vues les étés derniers, les hirondelles, elles ont de plus en plus de mal à construire leurs nids, et des nids de qualité, c'est-à-dire des nids avec des boules de boue qui vont bien tenir pendant toute la durée de la nidification. Il faut savoir qu'un nid, il est conçu de 250 grammes de boue. Pour le construire, elles ont besoin de faire 1200 allers-retours de la zone de prélèvement de boue et d'eau jusqu'au nid. Et elles font tout ça alors qu'elles viennent de faire plus de 6000 km pour arriver jusqu'à chez nous, au moment de la migration. Donc quand le nid a déjà été détruit, ou un nid qui va se détruire parce qu'il est de mauvaise qualité assez rapidement, ça leur demande une énergie dingue pour le reconstruire à nouveau. Et donc elles sont fatiguées avant même d'avoir commencé leur reproduction et la nidification. Donc tout ça, c'est vraiment des facteurs qui font que la population d'hirondelles, l'espèce hirondelle de fenêtre, se porte de plus en plus mal et on voit des diminutions drastiques.
Il faut savoir tout de même que les hirondelles et leurs nids sont directement protégés par la loi. Ainsi, il est interdit en tout temps de détruire ou de porter atteinte aux hirondelles, ainsi qu'à leurs nids, même inoccupés, ou à leurs couvées. Il s'agit d'un délit passible de 3 ans d'emprisonnement, tout de même, et de 150 000 euros d'amende.
Si jamais vous constatez que dans votre commune, ou la mairie, ou un voisin, il commence à être un peu ennuyé par ses nids et potentiellement voudrait passer à l'acte en les détruisant, n'hésitez pas à le sensibiliser en lui indiquant tout ça, parce que souvent les personnes ne le savent pas, ou à contacter l'Office français de la biodiversité, c'est la police de l'environnement, et c'est eux du coup qui seront les médiateurs pour expliquer, ou à nous contacter nous aussi, si vous le souhaitez.
À présent, je crois que vous allez nous parler d'un petit oiseau, le bruant ortolan, Un petit oiseau de la taille d'un moineau, facilement reconnaissable, avait son contraste vert olive sur la tête et brun orangé sur son corps et son bec rose. Parlez-nous de lui.
Alors, le bruant ortolan, du coup, c'est effectivement un tout petit oiseau, mais qui est très caractéristique des milieux agricoles, notamment chez nous, de la zone du Quercy blanc. Cet oiseau, il a besoin de perchoirs, comme des haies, des arbres isolés, pour émettre son chant plus ou moins mélancolique et repérer ses proies. Donc, il est essentiellement insectivore pendant la période de reproduction, donc au printemps. Et comme il reste chez nous et que lui ne migre pas, il devient granivore en hiver, puisqu'on sait tous que les insectes en hiver sont quand même un peu moins nombreux. On croise les doigts pour que les moustiques ne soient plus là cet hiver. Et donc, comme tous nos bruants, il effectue son nid directement au sol. Donc, et puis ce nid, il est caché des prédateurs avec les buissons et les hautes herbes qui peuvent être à proximité. Cet oiseau était particulièrement abondant il y a encore quelques années. Il était à l'époque chassé, il était cuisiné. Si on va faire un petit tour sur YouTube, dans les archives de l'INA, on peut trouver encore des vidéos de Maïté en train de cuisiner, de déguster des bruants ortolans. La vidéo date de 1987. Donc on montre vraiment à ce moment-là que l'espèce était abondante, très clairement. Et bah, la population a chuté drastiquement. L'espèce est dorénavant protégée, et ce depuis 1999. En 1980, donc avant que l'espèce soit protégée, on avait dans tout le sud-ouest de la France environ 500 couples, à minima. Sachant que le gros bastion, c'était le Quercy. On mène en fait pour cette espèce des études, des suivis pour voir l'état des populations au fil du temps et pouvoir se dire bon bah tout va bien pour cette espèce ou tirer la sonnette d'alarme, c'est la dégringolade, il faut vraiment agir. Et donc l'étude de 2000 a montré qu'il ne restait donc dans le secteur vraiment plus que du Quercy blanc là entre 28 et 57 couples, donc soit à peine un dixième de la population estimée 20 ans plus tôt. Et là on a refait du coup l'étude en 2013, donc il y a 10 ans, on en était à 10-15 couples. Donc on voit une diminution assez drastique de la population de cette espèce. Et donc du coup, il est vraiment nécessaire d'agir si on veut qu'elle perdure et si on veut pouvoir expliquer à nos enfants ou petits-enfants qu'est-ce qu'un bruant ortolan et qu'est-ce qu'il apporte dans le milieu.
Alors comment pouvez-vous expliquer une telle diminution des populations? Est-ce que c'est lié à la raréfaction des milieux qu'il affectionne, les pelouses sèches, les jachères, aux pesticides utilisés dans les jardins ou dans les prés?
C'est tout à fait ça, hein. C'est vraiment ces facteurs-là qui sont la cause de la diminution des populations. Si les pelouses sèches sont finalement exploitées, ça fait un milieu en moins pour que lui puisse s'installer. Il ne va pas aller faire un nid en plein milieu d'une culture de maïs. Enfin, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi donc, l'utilisation de pesticides par tout un chacun, qui réduit le nombre d'insectes que pourrait manger le bruant ortolan. On avait le même problème tout à l'heure avec les hirondelles. Et puis, il y a un autre point, c'est aussi le braconnage. Il y a une étude qui a été menée en 2019, donc pas par la LPO, une étude officielle qui montrait qu'en moyenne, il y avait 15 000 individus qui étaient capturés illégalement chaque année en France, principalement dans le sud-ouest, et donc du coup, qui contribuent à la diminution des populations.
Collectivement, il doit être possible d'agir pour préserver les espèces. La LPO sensibilise les habitants et les exploitants des milieux agricoles. Elle les accompagne pour que leur activité ne nuise pas au maintien des milieux. Chacun d'entre nous peut participer à son échelle et suivant ses connaissances.
Oui, là c'est vrai que les exemples que j'ai donnés, donc l'exemple du bruant ortolan, c'est des suivis qui sont... qu'on réalise, là pour le coup, nous, au sein de la LPO. Pour autant, tout un chacun peut contribuer à l'amélioration des connaissances pour les différentes espèces d'oiseaux. Et il y a notamment un comptage annuel qui est très, très sympathique et qui peut être fait par tout le monde, quel que soit le niveau de connaissance et quel que soit l'âge. C'est le comptage annuel des oiseaux des jardins. Et donc ce comptage, c'est donc le dernier dimanche de janvier et le dernier dimanche de mai, tous les ans, où on compte en fait le nombre d'oiseaux qui sont présents dans le jardin. Et pour ça, on a une petite fiche pour savoir à quoi ressemble une mésange, à quoi ressemble un rouge-gorge. Et donc tout le monde peut s'initier de manière ludique à l'observation des oiseaux. Donc c'est vraiment pour tous les niveaux. Donc en 2022, il y avait par exemple 127 jardins lotois qui ont participé. On n'a pas encore les chiffres pour 2023, mais on compte sur vous pour 2024.
Les espèces sont aussi impactées par la présence de routes qui fragmentent leur habitat. Les routes représentent une menace conséquente pour de nombreuses espèces animales et peuvent également avoir un impact en agissant comme une barrière totale ou partielle pour certaines espèces. Quels animaux sont concernés ?
Alors, il y a énormément d'oiseaux qui sont concernés. Alors là, on va plutôt parler du coup de ceux qui ne volent pas, puisque bah, tous les volants n'ont pas forcément cette barrière directe du béton. Mais ça concerne bah, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, tous ceux qui vont vraiment avoir besoin de se déplacer au sol. Nous, à la LP Occitanie, donc dans le Lot, on a réalisé donc des études directes sur la mortalité des espèces liées aux infrastructures routières en lien avec le département du Lot. Alors, ce n'est pas l'étude la plus glamour, le concède, mais c'est une étude qui est particulièrement intéressante puisqu'elle nous permet en fait de connaître vraiment les points noirs pour la faune sauvage par rapport aux routes et d'essayer d'agir au mieux pour faire quelque chose, mettre en place des dispositifs pour ces espèces. Donc l'un des exemples qu'on peut mettre en évidence, donc, c'est par rapport à l'écureuil roux. Donc, bah, c'est le petit mammifère qu'on connaît tous, arboricole, très mignon, qu'on apprécie observer quand on a la chance de pouvoir le voir. Et donc on avait collecté les données d'écureuil, donc vivant ou mort, sur les routes, donc soit bon, mort présent sur route, ou vivant, donc qui traverse la route. Et ça nous a permis de mettre en évidence la nécessité d'installer des dispositifs pour leur permettre de traverser sans danger. C'est-à-dire que quand il y avait une zone où on les voyait, enfin où on avait beaucoup de données, on savait que là c'était un passage privilégié. Et donc on a mis en place des dispositifs, c'est des passages qui sont aériens, des écuroducs, et ça permet de réduire considérablement l'écrasement des écureuils, puisqu'ils ont une zone de traversée sécurisée en hauteur, ils n'ont plus besoin d'aller sur le béton en fait pour pouvoir traverser. Il y a 4 écuroducs qui ont été mis en place depuis 2021, un à Saint-Géry-Vers, un à Cajar, un entre Fajolles et la Motte-Fenlon et un à Pérignac.
D'ailleurs, chacun peut participer pour aider à la mise en place de ces dispositifs en indiquant les zones où on observe des animaux traversant la route ou malheureusement morts, avec une photo si vous n'avez pas l'espèce. Ces informations sont très importantes et permettent d'agir concrètement pour préserver les espèces. Vous nous avez parlé des infrastructures routières, mais on sait que tout arbre prend racine à la Sainte-Catherine. Dans nos campagnes, on voit de plus en plus de zones déboisées. Des partenariats se créent avec des associations comme les Forêts du Sport Français ou la Fondation pour la Nature et l'Homme, la FNH, pour replanter des arbres partout où ils ont été coupés. Et ce que l'on voit bien souvent, ces arbres replantés sont bien alignés et surtout ne sont pas des essences locales endémiques. N'y a-t-il pas un danger pour les écosystèmes et la biodiversité, et particulièrement pour les oiseaux dont nous parlons ?
Alors oui, effectivement, quand ce sont des espèces qui ne sont pas locales, pas endémiques, on va pouvoir observer différents biais. En fait, le premier, c'est que donc, si elles ne sont pas de chez nous, elles ne sont pas forcément adaptées à nos milieux. Un arbre qui vient de Hollande, par exemple, et qui est planté chez nous, bah, il ne va pas connaître nos sols du Causses, qui sont quand même très pauvres, ni les sécheresses qu'on peut avoir l'été. Donc, en termes de croissance de l'arbre, bah, elle va être très limitée, voire il va mourir au bout de 2 ans. Donc ça, c'est un premier point. Après, effectivement, quand on apporte des espèces qui ont été cultivées à d'autres endroits en Europe ou dans le monde, quand on les importe en fait en France pour pouvoir les planter, ça peut aussi apporter bah, des maladies ou des insectes notamment qui bah, ne viennent pas du tout de chez nous et qui vont se développer en fait chez nous et donc nuire à la biodiversité qui est présente. On a eu le cas il y a quelques années, par exemple, de la pyrale du buis. On ne la connaissait pas avant. Elle est arrivée avec les buis qui étaient importés. Et bah, y a eu une explosion complète de pyrales. Elle avait tout un champ de liberté en fait, pour s'exprimer, avec aucun prédateur qui était habituel, donc personne ne la mangeait. Donc en fait, ça dérègle complètement nos écosystèmes. Donc il vaut mieux privilégier effectivement des espèces locales et endémiques qui seront beaucoup plus aptes pour se développer chez nous de la bonne manière et qui ne seront pas mauvaises pour notre environnement.
Il y a une chose dont on n'a encore pas parlé, c'est le changement climatique. A-t-il sur les oiseaux migrateurs, comme les hirondelles dont on parlait tout à l'heure, sur la durée de leur migration, est-elle plus courte, plus longue, le changement de destination, voire plus d'arrêt du tout sur nos terres ?
Alors c'est une question qui est très vaste, enfin la réponse peut être très vaste du moins, puisque ça va être dépendant de chaque espèce. On peut prendre quelques exemples, effectivement, le changement climatique va induire chez certaines espèces des modifications comportementales liées à la migration. Là, on voit par exemple dans le Lot que la huppe faciée, qui est un oiseau typique de notre département, un peu orange roux avec une crête sur la tête, donc il migre au mois d'août pour partir en Afrique. Et il y a quelques années, tout le monde migrait, il n'y avait pas de problème. Et là, depuis quelques années, il y a des individus isolés qui font le choix, mais on ne sait pas encore pourquoi, on ne connaît pas encore les mécanismes qui font ce choix, qui restent en fait pour passer l'hiver. Donc pour eux, si l'hiver est suffisamment doux, c'est bénéfique puisqu'ils n'auront pas la fatigue du trajet, ils seront les premiers à défendre le territoire et ils seront les premiers reproducteurs aptes en fait sur terrain. Donc finalement, c'est un peu un jeu. Donc si l'hiver est trop froid, ils ne survivront pas, mais si l'hiver est suffisamment doux, ce seront un peu les premiers servis pour l'année suivante.
Les premiers servis.
Ouais. Donc on voit vraiment des différences en fonction des espèces.
Nous en savons à présent davantage sur comment préserver cette nature qui nous entoure, ces oiseaux si colorés, chatoyants, leurs chants, ces qui nous réveillent parfois dès 3 heures du matin. Pourriez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, à quel numéro peuvent vous joindre les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient vous joindre?
Oui, avec plaisir. Donc, on peut nous joindre au 05 65 22 28 12. 05 65 22 28 12.
Et vous avez peut-être un site?
Oui, bien évidemment, on a un site et une page Facebook. On peut nous trouver donc, pour le site sur lot.lpo.fr. Et pour la page Facebook, c'est lpooccitanie-lot.
Votre bureau se situe Espace Clément Marot, place Bessières à Cahors. Et il y a une permanence?
Oui, il y a une permanence tous les mercredis matin où les bénévoles seront ravis de vous accueillir entre 10h et midi et demi.
Y a-t-il des sorties à venir?
Oui, on a des sorties qui sont proposées au cours du mois de novembre. Donc par exemple, le samedi 11 novembre, vous pourrez aller découvrir le Grand-Duc, c'est un majestueux hibou. Il y a une sortie donc crépusculaire à Calès, dans le nord du Lot. Le samedi 18 novembre, on propose une formation pour les personnes qui souhaitent aider la faune sauvage blessée ou en détresse. Donc ça aura lieu à Cahors. Et le samedi 25 novembre, on vous propose un atelier mangeoire et nichoir pour favoriser les oiseaux dans vos jardins dès le printemps. Et donc cet atelier aura lieu à Méronne.
Je vous remercie, Madame Plaga Lemanski, au nom de nos hérissons, nos écureuils, nos crapauds, et j'en oublie, pour nous avoir apporté toutes ces informations très précieuses pour chacun de nous au micro de Radio Présence.
Merci à vous et merci beaucoup pour cette invitation.
L'autre savoir-faire, une émission présentée par Marie-Catherine Bédouret.